VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du lundi 26 octobre 2015. Au sommaire ce soir,
la Côte d'Ivoire dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle de dimanche.
Je m'attendais à un taux de 40-45%, pas plus. Je suis un peu surpris, comme tout le monde, de ce taux de 60% que personnellement, je ne trouve pas crédible.
Christophe Kouamé de la société civile. Nous aurons aussi sur place notre envoyé spécial, Tatiana Mosso.
Au Congo-Brazzaville, on attend les résultats du référendum qui permettrait au président de Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Et déjà, le parti au pouvoir crie victoire.
Mais c'est incontestable. Le oui est largement majoritaire.
Les armées africaines accusées de traitements inhumains à l'encontre de présumés terroristes.
Un violent tremblement de terre s'est produit ce lundi en Afghanistan, faisant au moins une cinquantaine de morts.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
La Côte d'Ivoire, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle de dimanche, en dépit des appels au boycott de plusieurs candidats de l'opposition, la Commission électorale indépendante, la CEI, affirme que le vote a mobilisé 60% des électeurs, selon les premières estimations. Nous avons sur place notre envoyé spécial, Tatiana Mosso, à Abidjan. Bonsoir Tatiana.
Abidjan retient son souffle toujours ici, bien que le suspense soit relatif sur le vainqueur. Certains Ivoiriens, la journée a été plutôt calme. L'une des grandes inconnues de ce scrutin, c'était tout d'abord le taux de participation. Il a été indiqué par la commission électorale indépendante à la mi-journée, il est de 60%. Un chiffre que certains, y compris de la société civile et parmi les observateurs, ont plutôt jugé peu crédible, avançant eux de leur côté des chiffres plus faibles, entre 40 et 50%. Il y a quelques heures, le vice-président de la CEI, Hervé Koulibaly, nous confiait être encore en train de compiler les résultats, notamment de toutes les communes d'Abidjan. Et bien sûr, il faut avant tout terminer la compilation pour pouvoir prévoir des résultats partiels. Résultats partiels dont on a repoussé la publication. Ils étaient prévus pour 18h ici, en heure locale. Ils sont attendus plus tard dans la soirée, voire demain matin, d'après certaines sources au niveau de la commission électorale indépendante. Enfin, la soirée s'annonce encore longue pour les agents de la CEI. Ils devraient continuer la consolidation de tous les résultats provenant des provinces, donc de l'intérieur du pays, ainsi que de l'étranger, bien évidemment, avant des résultats globaux attendus en milieu de semaine.
Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale en Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur la présidentielle ivoirienne en seconde partie d'émission.
Et en Côte d'Ivoire toujours, la Cour pénale internationale a rejeté la demande de la défense de Laurent Gbagbo d'ouvrir le procès de l'ancien président dans son pays, invoquant des problèmes de sécurité et de logistique. L'avocat de M. Gbagbo, dont le client est accusé de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011, avait demandé au juge que l'ouverture du procès ait lieu en Côte d'Ivoire ou alternativement à Arusha en Tanzanie.
Les Congolais attendent les résultats du référendum organisé hier sur un projet de constitution qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Idriss Fall.
Les Congolais ont refusé de voter, selon Pascal Sati Mabiala, secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, un parti d'opposition. Il a ajouté que la participation n'a pas dépassé 10% et que c'est un véritable camouflet pour le pouvoir à Brazzaville. Les opposants avaient appelé au boycott de ce qu'ils ont qualifié de coup d'État constitutionnel. Le projet fait sauter les verrous qui empêchent le président Denis Sassou Nguesso de se représenter. La campagne a été marquée par l'interdiction des rassemblements publics, l'assignation à résidence de nombreux opposants et des violences meurtrières. Les résultats du référendum devraient être connus cette semaine, mais déjà, Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT au pouvoir, dit s'attendre à un oui massif.
trois civils tués et deux casques bleus blessés ce week-end dans l'extrême nord-est du Mali. Une mine ou un engin explosif a sauté samedi dans les avions de Tessalit. C'est ce qu'indique la mission de l'ONU au Mali. Une autre explosion se sera ensuite produite alors que la MINUSMA se rendait sur les lieux.
Présidentielle au Niger, Amadou Boubacar Cissé, ancien ministre du Plan, a été désigné candidat à l'élection de 2016 par son parti, l'Union pour la démocratie et la République, l'UDR. C'est ce qu'ont affirmé ses proches à l'AFP. Candidat malheureux en 2011, M. Cissé, 67 ans, avait soutenu l'actuel président Mahamadou Issoufou au second tour de la présidentielle.
L'Union européenne a invité les autorités burundaises à des consultations. Les 28 pays de l'Union européenne ont donné leur feu vert à l'envoi d'un courrier au président Pierre Nkurunziza. Les consultations porteraient sur les atteintes à la démocratie dans ce pays secoué par une grave crise depuis le printemps. Une procédure susceptible de conduire à la suspension de l'aide européenne. Pierre Nkurunziza a donc 30 jours pour y répondre et les consultations doivent se dérouler dans les 120 jours suivants.
Drame de l'immigration, un Guinéen est mort noyé après le naufrage d'une embarcation de fortune près de l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. D'après la garde civile espagnole, de forts courants et des vagues auraient renversé le bateau.
Le principal parti d'opposition en Tanzanie a dénoncé de possibles fraudes électorales et la tension commence à monter sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar au lendemain des élections générales en Tanzanie, dont les premiers résultats partiels étaient attendus aujourd'hui. Jacques Aristide.
Quelques 23 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes hier pour élire leur nouveau président. Celui-ci doit succéder à l'actuel chef de l'État, Jakaya Kikwete, qui, conformément à la Constitution, ne se représentait pas après avoir achevé son second mandat. Les Tanzaniens devaient également choisir leurs députés et conseillers locaux. D'après des observateurs, ces élections, qui se sont déroulées dans le calme, pourraient mettre fin au règne du parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1961, ce qui faisait craindre d'éventuelles violences post-électorales, d'après l'AFP. Le décompte des voix se poursuivait ce lundi et des résultats préliminaires devaient être communiqués aujourd'hui. Quant à l'annonce des résultats définitifs, elle est prévue mercredi ou jeudi. L'opposition crie déjà à des irrégularités, le parti Chadema évoquant des allégations de fraude électorale ayant trait à des bourrages d'urnes, des accusations qui ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un violent tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 s'est produit ce lundi en Afghanistan, provoquant de violentes secousses jusqu'en Inde et au Pakistan. On recense plus de 50 morts jusqu'à présent. Salwa Jafari.
La secousse particulièrement longue a détruit des bâtiments en Afghanistan, en Inde et au Pakistan. Selon l'Institut américain de géologie, l'hypocentre du séisme se situe à Jholm, dans les montagnes reculées du Badakhshan, à l'extrême nord-est de l'Afghanistan, à une profondeur de 213 km. Dans la province voisine de Tahar, la panique qui a saisi des écoliers au moment du séisme a provoqué la mort de 12 d'entre elles. Au moins 6 personnes ont été tuées et 69 blessées dans la province du Nangarhar, selon un hôpital local portant à 18 le nombre de morts recensés jusque-là en Afghanistan. Les premiers bilans étaient encore plus importants au Pakistan voisin avec 52 morts. Il y a 10 ans au Pakistan, le 8 octobre 2005, un séisme de magnitude 7,6 dont l'épicentre se situait à quelques centaines de kilomètres de celui d'aujourd'hui, avait fait plus de 75 000 morts et poussé 3,5 millions de personnes à quitter leur foyer.
Élection générale en Haïti, les premiers résultats officiels sont attendus dans environ une semaine. Le scrutin du 25 octobre s'est déroulé sans incident majeur, contrairement aux élections législatives du 9 août. Les électeurs devaient choisir un président parmi 54 candidats, 111 députés, 18 sénateurs et 142 élus locaux. Jacqueline Bélisère est un envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Port-au-Prince.
L'organisation a été nettement améliorée après les correctifs apportés par le Conseil électoral provisoire. Il faut quand même noter quelques irrégularités qui sont inhérentes à un système électoral aussi jeune. Par exemple, quelques électeurs ont eu du mal à repérer leur bureau de vote. Il y avait aussi un grave problème logistique. Les chambres trop exiguës pouvaient à peine contenir mandataires, observateurs, membres du bureau et électeurs. ces chambres ont été mises à rude épreuve lors des opérations de dépouillement en fin de soirée. La police nationale a présenté hier soir un bilan partiel, 234 arrestations et interpellations. 4 véhicules ont été confisqués. Ils ont recensé 2 blessés par balle. En attendant, le processus continue au centre de tabulation avant la publication des résultats.
Merci Jacqueline Bélisère. Au Guatemala, à l'issue d'un véritable raz-de-marée électoral, l'acteur comique Jimmy Morales a été élu président. Âgé de 46 ans, Morales a battu au second tour l'ex-première dame Sandra Torres, qui, elle, a 60 ans. Morales devra surmonter son manque d'expérience politique pour diriger ce pays d'Amérique centrale, miné par la corruption, la pauvreté et l'insécurité.
Une fusillade dans le sud-est de la Turquie a entraîné la mort de 2 policiers turcs et 7 membres présumés du groupe État islamique. C'est le plus grave incident du genre sur le sol turc depuis qu'Ankara rejoint la coalition anti-djihadiste l'été dernier. Il intervient à 6 jours d'élections législatives anticipées sous haute tension et 2 semaines après un attentat suicide attribué qui a fait 102 morts en plein cœur d'Ankara. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Bagassi Koura.
L'Inde accueille depuis ce lundi un rassemblement inédit de chefs d'État africains. Ce sommet Inde-Afrique, qui se tient jusqu'au 29 octobre, est le plus important rassemblement de dirigeants étrangers en Inde depuis 1983. L'Inde est largement supplantée par la Chine en Afrique.
Tout ce qui contribue à réduire l'influence de l'unilatéralisme aujourd'hui est un élément positif.
Maurice Saé est économiste ivoirien.
C'est un marché de plus d'un milliard d'habitants, un milliard de consommateurs. Si vous arrivez à vous faire 100 millions déjà, je pense que même 10 millions, c'est déjà pas mal. Hein.
Les échanges entre l'Inde et l'Afrique se sont cependant renforcés, passant de 3 milliards de dollars en 2000 à 70 milliards en 2014, selon New Delhi. En Côte d'Ivoire, les industriels du secteur minier demandent au futur président d'appliquer le nouveau code minier. Selon l'AFP, celui-ci prévoit d'augmenter la durée de validité des permis de recherche, passant de 7 à 10 ans, avec une possibilité de renouvellement exceptionnel de 2 ans. Le texte privilégie également l'exonération fiscale et douanière au cours de la recherche et de l'exploitation. Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babylon annoncent la création de la première plateforme de financement participatif dédiée à l'accès à l'énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cette plateforme, qui sera accessible au public début 2016, vise d'ici à 2 ans le financement de 2000 micro-entreprises dans une douzaine de pays.
La Minute Éco, merci Bagassi.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
L'info du jour n'en est pas une en football.
Nos confrères de l'équipe annoncent ce lundi l'arrivée de Rigobert Song à la tête de la sélection tchadienne. À 39 ans, cela serait une première expérience en tant qu'entraîneur pour l'ancien joueur de Metz, de Lens ou encore de Liverpool. Oui, mais voilà Morgane, cette information est démentie par la fédération tchadienne qui reconnaît des contacts en septembre dernier avec le Camerounais, mais rien de plus. VOA Afrique a joint Djibril Dembélé, le secrétaire général de la fédération tchadienne de football.
Oui, en fait, c'est vrai, tout comme vous, nous avons lu tout de suite les informations dans l'équipe comme quoi Rigobert Song est devenu sélectionneur du Tchad. Bon, en fait, nous avons effectivement eu des contacts au mois de septembre avec Rigobert Song. On l'a invité pour notre match contre l'Égypte. Des contacts sont en cours, effectivement, mais aucun contrat n'a été encore signé avec Rigobert Song.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est quand même le favori?
Là, je ne peux pas vous le dire parce que jusqu'à là, rien n'a été fait, et donc je ne peux pas vous confirmer.
Est-ce que ça vous surprend, ce genre d'informations, finalement?
Oui, effectivement, parce que tout comme vous, en fait, ça fait le tour du monde. Et puis, pour des choses qui ne sont pas encore matérialisées, moi, je pense que ça surprend, oui. Pour le moment, c'est Mamadou Mariaya qui est l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale.
Djibril Dembélé, secrétaire général de la Fédération tchadienne de football, il était joint à N'Djamena.
CHAN 2016 au Rwanda, les Jeux sont presque faits.
Le plateau de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux est presque complet, avec notamment les qualifications ce week-end de l'Angola, de la Guinée et du Mali. 2 tickets restent à attribuer entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale entre le Congo et le Cameroun.
mondial des moins de 17 ans au Chili.
Le Nigeria, le Mali, la France, l'Allemagne et le Brésil sont au rendez-vous des huitièmes de finale mercredi et jeudi au Chili. Grande absente des huitièmes de finale, l'Argentine qui n'a pas assuré sa qualification. Le rendez-vous Morgan, le Mali qui affrontera la Corée du Nord.
Voilà pour les sports, merci Nicolas. Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la Côte d'Ivoire, Gabi.
Oui, au lendemain du scrutin présidentiel de dimanche, on attend les résultats. La commission électorale indépendante a annoncé un taux de participation, écoutez bien, de 60%. C'était l'une des grandes inconnues de ce processus électoral. Entre l'appel au boycott d'une partie de l'opposition ou encore l'abstention, Kwame Christophe, membre de la société civile, livre son analyse de ses premiers chiffres de la CEI à notre envoyé spécial Tatiana Mosso.
Nous avons parcouru, moi et mon équipe, je dirais de citoyens volontaires, Cocody, Rivera, Yopougon, Plateau. Nous avons rencontré les équipes de la société civile, les centres de veille, les trois grands centres de veille. À mon avis personnel, je m'attendais à un taux de 40-45%, pas plus. Je suis un peu surpris, comme tout le monde, de ce taux de 60% que personnellement, je ne trouve pas crédible.
Pourquoi, selon vous, ce taux n'est pas crédible?
Vous n'avez qu'à voir à l'analyse des faits que nous voyons tous les jours, c'est-à-dire les citoyens qui nous approchent, qui ne sont pas forcément les 23 millions, mais qui sont des échantillons représentatifs. Déjà, beaucoup de citoyens, depuis la fin de la crise, ne s'intéressent presque plus à la politique. Et pour eux, chaque élection étant un risque de violence, la majorité des personnes qui nous ont écrit, que ce soit sur Facebook, que ce soit par SMS ou qui nous rencontrent, déjà préparer une abstention record. Ça, c'est les personnes. Ensuite, il y a le boycott lancé par tous les membres du FPI, je dirais version Sangaré. Et ensuite, nous sommes allés quand même en ville. Nous avons circulé jusqu'à 2h du matin hier. Nous n'avons pas vu d'attroupement parce que 60%, c'est quand même 50 plus 10%. Et nous n'avons pas vu ces attroupements. Nous avons appris que quelques bureaux ont fermé à 19h, mais de 18h à 19h, 1h, vraiment par où nous sommes passés, nous n'avons pas vu ces attroupements-là qui peuvent nous permettre de croire que nous sommes à 60% de taux de participation.
Jugez-vous crédibles les choses qui ont été avancées concernant les achats de votes? Plusieurs journalistes ivoiriens en ont fait écho.
Oh, dans la culture des votes en Côte d'Ivoire, c'est possible. Dans la culture des votes, je dis bien, je n'ai pas eu personnellement ni d'informations, ni de photos, ni de films, mais dans la culture ivoirienne, c'est possible.
Vous revenez sur ce taux de participation qui vous semble peu crédible. Est-ce que ça veut dire que les résultats qui pourraient tomber ce soir ou demain pourraient l'être?
Je pense que là, c'est de la spéculation, mais nous avons dénoncé personnellement tout le processus en termes de constitution de la CEI, en termes de membres de la CEI, le code électoral et tout le processus, nous l'avions dénoncé en son temps à chaque étape. Le résultat n'est que le reflet de tout le processus. Maintenant, si en 2 jours, tout a changé avec les tablettes, nous avons appris finalement que 29% des tablettes n'ont pas marché, cela peut expliquer ceci.
Kwame Christophe, membre de la société civile ivoirienne.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Une rétrospective des dernières élections en Afrique et un avant-goût des autres à venir. Dans certains pays, la question du troisième mandat fait toujours débat. Qui sont ces présidents qui s'accrochent au pouvoir? Mettent-ils en péril la paix dans leur pays? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Le Congo-Brazzaville attend les résultats du référendum organisé hier sur un projet de constitution qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Déjà, chaque camp crie victoire. Idriss Fall a recueilli la réaction de Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir.
heureux de constater que le référendum s'est bien déroulé dans la paix, dans la sécurité. Les citoyens en toute liberté se sont exprimés faisant le choix qui était le leur. La démocratie congolaise va triompher. Le peuple a gagné.
Mais apparemment, il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas fait le déplacement vers les bureaux de vote.
C'est exagéré. Sur la base de quoi on peut faire une telle affirmation? Un bureau de vote, ce n'est pas l'ensemble de la République. Le Congo ne se ramène pas à un arrondissement de Brazzaville. Sur toute l'étendue du territoire national, la mobilisation a été forte. Sauf que ça ne peut pas être le même niveau de mobilisation partout.
Est-ce que vous attendez à un oui massif?
Mais c'est incontestable. Le oui est largement majoritaire. Et c'est parce que les amis avaient conscience de ça qu'ils s'opposaient à tout prix. Ils n'ont pas voulu entendre parler du référendum parce qu'ils savaient que si on va vers le peuple, le oui sera naturellement gagnant.
Donc le président Denis Sassou Nguesso pourra briguer un autre mandat.
On a malheureusement développé une opinion consistant à penser que le changement de la Constitution était envisagé par rapport à l'âme de Denis Sassou Nguesso qui devrait briguer un autre mandat. Ça, ce n'est pas notre conception. Nous posons un problème de transit. Des problèmes que pose la Constitution actuelle. Si demain, Denis Sassou Nguesso peut tirer le bénéfice s'il a l'appui des citoyens, ce n'est pas un crime.
Et c'était Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir. Et dans le camp adverse, c'est une autre lecture de ce qui s'est passé hier. Mathias Dzon, un leader de l'opposition congolaise.
Et la réponse a été cinglante hier. Je ne sais même pas si le taux de participation va atteindre 2%. Partout, les Congolais ont boudé les urnes. Personne n'a quitté sa maison pour aller voter. Ça veut dire que les Congolais ont rejeté le changement de constitution dans notre pays. Les Congolais ont rejeté la demande du troisième mandat par le président Sassou. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous les Congolais.
Si le parti au pouvoir ou bien le président Denis Sassou Nguesso n'en ont cure alors?
100% des urnes ont été bourrées d'avance. Alors il va proclamer que le oui l'emporte. Mais c'est ce qu'il fait habituellement. D'ici le soir ou demain, soit il va proclamer que le oui l'a emporté. Et ce sera du bidon, les Congolais savent qu'ils n'ont pas voté. Normalement, si le président Sassou veut avoir la conscience tranquille, si c'est un homme d'honneur, un homme digne, il doit invalider ce référendum qui n'en a pas été un. Si c'est vraiment un officier digne de ce nom, en tant que militaire officier général, il doit invalider ce référendum et tirer la leçon qui s'impose. Ce rejet, moi à sa place, je proposerai au peuple congolais ma démission et de mon poste de président. C'est tout ce qu'il y aurait à faire.
Mathias Dzon, leader de l'opposition congolaise à Brazzaville.
Dans l'autre Congo, la RDC, le M23 dénonce un retard délibérément entretenu par le gouvernement sur la mise en œuvre de l'accord de Nairobi. Dans un communiqué, le leader du groupe, Bertrand Bisimwa, demande aux membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent, rapporte notre station partenaire Top Congo FM. Pour le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, des ex-combattants armés du M23 sont entrés en territoire congolais avant même la publication du communiqué. Nathalie Barge a joint à Goma Omar Kavota, le coordonnateur de ce mouvement de la société civile dans le Nord Kivu.
Avant la publication de ce communiqué, nous venions de remarquer que le commandant du M23 vidait leur camp de Ihana, Nolo de Kampala, pour débarquer dans le district de Bundibugyo, à destination de la République démocratique du Congo, où ils ont traversé notamment jeudi et vendredi dernier, pour rejoindre curieusement les adeptes laïcs qui combattent l'armée dans la province du Nord Kivu.
Comment pouvez-vous être certain qu'il s'agit réellement d'ex-rebelles du M23?
Ces rebelles ont quitté à pleine journée. Des véhicules ont débarqué dans des camps militaires de l'armée ougandaise, notamment à Butama. Et de là, ils sont venus jusqu'à Kibedeya, à la limite avec la RDC. Nous avions commencé à alerter avant que le M23 ne publie ce communiqué. Et donc, le communiqué du M23 ne nous a pas surpris du tout, parce qu'il venait déjà de s'engager vers une voie de la rébellion.
Vous affirmez également qu'ils appuieraient les ADF Nalu. Encore une fois, comment pouvez-vous être certain de cela?
Nous nous avons des informations vérifiées. Et la plupart des combattants qui ont été visibles à la frontière, c'était des combattants M23 sous le commandement d'un certain colonel Youssouf Mboneza. C'est un colonel qui a travaillé au nord Kivu, à territoire de Beni notamment, comme état de l'armée, et qui avait fait des sections à direction du M23. Et certains de ces éléments étaient connus de la population. Et lorsque nous avons des alertes, nous prenons soin de vérifier. Le M23 ne peut pas contredire ce que nous disons parce que nous disposons des preuves. Et curieusement, le M23 traîne à revenir au pays à dépit du fait qu'il bénéficie d'une loi d'amnistie.
Le M23 dit cependant que le gouvernement ne respecte pas l'accord de paix de Nairobi. Qu'en pense la société civile? Est-ce que cet accord est vraiment respecté ou pas?
Mais comment est-ce que le M23 peut continuer à évaluer les choses de l'extérieur? Pourquoi le M23 ne vient pas au pays et comme ça revendiquer? Si nous ne savons même pas quel est le contenu de cet accord que le M23 prétend que le gouvernement ne respecte pas. Il est fort que le M23 fasse d'abord le premier pas. Il avait été amnistié pour que les combattants reviennent au pays. Mais jusqu'aujourd'hui, le M23 qui prétend alors respecter ces accords n'a jamais essayé de respecter un iota de ces accords.
Omar Kavota, un leader de la société civile à Goma, dans l'est de la RDC.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Les armées africaines accusées de traitements inhumains à l'encontre des présumés terroristes. Souvenez-vous, en septembre, un rapport d'Amnesty International accablait les soldats africains. Aujourd'hui, le réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, réuni à Yaoundé au Cameroun, relève l'urgence de mettre fin aux tortures, même s'il s'agit de terroristes. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka.
Depuis quelques années, l'Afrique connaît une montée en puissance du terrorisme. Et pour faire face à la menace, elle reçoit l'aide de grandes puissances mondiales. Le contexte est favorable à la violation des droits de l'homme, d'où les cris d'alarme des associations de défense des droits de l'homme qui mettent toutes de même un bémol. Gilbert Essebeogo, directeur exécutif du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme.
C'est un peu difficile, on comprend la situation dans laquelle les États se trouvent, mais il faut aussi garantir certains droits. C'est pas seulement le terrorisme, il y a aussi la situation des migrations maintenant. Ce qui se commet dans les centres-là, c'est ignoble. Nous sommes en train de renforcer la capacité des institutions nationales pour pouvoir donner conseil aux États dans le processus de mise en place des mesures, ou si vous voulez, des législations et politiques de lutte contre le terrorisme.
Le Cameroun et le Tchad, comme d'autres États, ont certes adopté des lois antiterroristes, mais il reste la prise en compte d'autres paramètres pour que la lutte contre le terrorisme soit plus efficace. Lamati Mohamed est membre du Conseil national des droits de l'homme du Maroc.
La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas uniquement une question d'élaboration de lois répressives contre les terroristes et contre les mouvements terroristes, mais aussi c'est une lutte qui se situe sur le plan culturel, sur le plan de la promotion, sur le plan du débat national pour élaborer ces stratégies adéquates. La lutte contre le terrorisme s'inscrit dans la durée et pour cela, il faut que chacun assume sa responsabilité et remplisse son rôle, que ce soit les gouvernements et les États, que ce soit les institutions nationales des droits de l'homme, comme j'ai dit, ou que ce soit la société civile.
Les 44 associations des droits de l'homme n'ont pas dressé un classement des États africains qui brillent par le non-respect de la dignité humaine, mais ils prescrivent un mode de traitement des présumés terroristes. Comme l'explique Chemuta Divine, représentant du Cameroun.
On dit tout simplement que chaque suspect doit être traité avec un minimum de dignité et qui doit être jugé équitablement avant d'être condamné. Il faut éviter de torturer parce que, comme vous le savez, une information qui est obtenue sur la base de torture, ça ne doit pas servir à un jugement. On est tellement contre la torture parce que la torture peut avoir une atteinte à la vie. On peut rester sans aller à l'école, mais on sera toujours en santé. On pourra faire les choses. Mais si on est torturé, on risque de perdre sa vie, alors que la vie, c'est la première des droits de l'homme.
Selon les les représentants des associations des droits de l'homme africaines, il existe bien une convention des Nations Unies contre la torture, signée le 10 décembre 1984. L'un des objectifs majeurs de cette convention est l'éradication de cette pratique. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Lionel Gaïma. Présentation chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, retrouvez-nous sur Facebook et sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.